Chers amis des cellules, bonjour. En cette deuxième semaine du temps du carême, je vous propose de réfléchir sur l'évangile de dimanche prochain, l'évangile de la Samaritaine au chapitre 4 de Saint Jean. La femme est saisie par le fait que Jésus lui a dit tout ce qu'elle avait fait. Nous serons tout particulièrement attentifs à la façon dont Jésus procède pour apporter cette vérité, apporter cette lumière sur la vie de cette femme. Nous tâcherons d'en tirer quelques conclusions pour la façon dont nous-mêmes nous comporter lorsque nous avons à énoncer une vérité difficile à quelqu'un. Lisons la première partie du texte jusqu'au moment où la femme reconnaît Jésus au moins comme un prophète. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. » D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » La suite du texte va montrer que l'élément qui retourne le cœur de la Samaritaine, c'est le fait que Jésus lui a dit tout ce qu'elle avait fait. Par deux fois, elle insiste dessus, « Il m'a dit tout ce que j'avais fait. » Elle a en fait reçu une parole sur sa vie, une lumière sur sa vie, du sens sur sa vie et en a été bouleversée. Pourtant, cette parole comportait un volet délicat. Jésus fait remarquer qu'elle a eu cinq maris, et il souligne que l'homme avec qui elle est maintenant n'est pas son mari, qu'elle est donc dans une situation d'adultère. Cette énonciation est une correction fraternelle, ce qui n'est jamais simple à formuler si l'on veut que ce soit compris et reçu. Eh bien, tâchons de regarder comment Jésus s'y est pris, pour délivrer cette phrase et qu'elle soit reçue. Le premier élément est de dépasser le fait qu'on n'ait rien à voir ensemble. Et cette femme est venue à midi, donc dans l'espoir de ne venir personne, elle vient à l'heure la plus chaude. Et ça se comprend, si elle a déjà eu cinq maris, les autres femmes du village sont certainement méfiantes, et si le prochain c'était le leur. Par ailleurs, Jésus est juif, et l'autre samaritaine. A priori, c'est une situation où l'on est mal à l'aise, où l'on resterait plutôt chacun de son côté, en retrait. Eh bien, on se rend compte que quand on veut parler à quelqu'un, il y a un préjugé à dépasser, il y a une peur à affronter, il y a une part de l'histoire blessée qui me donnerait envie de n'avoir rien à voir avec l'autre, de n'avoir aucun contact avec l'autre, qui est à prendre en compte et à dépasser. Le deuxième point que l'on peut souligner, c'est que Jésus s'approche d'elle, entre en relation avec elle, non pas avec une position agressive dominante, mais pour une collaboration, comme un partenaire. « Tu es l'aide qui me convient. » Il lui demande à boire. il ne s'approche pas d'elle en disant tu as cinq maris, ça ne va pas, ce n'est pas possible. Il ne s'approche pas d'elle en lui en disant, entre guillemets, tu es le pot défectueux que je viens réparer, mais plutôt, tu es l'aide qui m'est assortie, tu es l'aide qui me convient, tu es l'aide dont j'ai besoin, donne-moi à boire. Il ne vient pas en accusant l'autre d'être défectueux, il ne vient pas, il ne s'approche pas en mettant l'autre en accusation. Ce sera donc un élément important pour nous pour approcher de l'autre, avoir l'audace de demander son aide, fais-moi la grâce de ton attention, tu es détenteur d'une puissance, d'une capacité qui m'aiderait, tu as la capacité de faire un bien. Jésus a approché l'autre comme une collaboratrice qui pouvait lui faire du bien. Le troisième point, Jésus va éveiller ou réveiller un désir dans son cœur. Il ranime dans le cœur de la femme ce désir de l'eau vive, d'une eau qui soit abondante, qu'elle n'ait plus jamais soif. Et il précise aussi l'importance de son identité. Si tu savais qui est celui qui te parle, si tu savais qui je suis vraiment, tu saurais que je peux te faire du bien, ce bien de l'eau vive. Il manifeste qu'il peut être pour elle aussi un collaborateur qui peut lui faire du bien, qui peut faire du bien à sa vie. Il se présente non pas comme une menace, mais lui aussi comme l'aide qui lui convient. Il y a cependant quelque chose à découvrir de son identité, au-delà de la simple apparence, un juif qui ne devrait rien avoir à faire avec une samaritaine. Or, de fait, nous, dans nos situations, nous sommes parfois figés par les apparences, ce qui apparaît de l'autre, ce qui apparaît de moi, de nos histoires. Nous sommes figés par les éléments apparents, sans plus prêter attention à ce qu'il pourrait y avoir au-delà. Nos histoires sont blessées, nos histoires sont compliquées, et nous ne voulons pas voir au-delà. Je me permets une image. Une terre dévastée peut pourtant cacher un riche sous-sol. Une terre a pu être dévastée par un incendie, par des combats, elle peut cacher un riche sous-sol, que ce soit une nappe phréatique ou que ce soit une nappe de pétrole. Les ressources sont là, mais elles sont encore invisibles, cachées au regard. Des ressources sont là, mais en apparence, il n'y avait plus rien. Voilà, cela signifie une approche de l'autre qui porte une espérance. L'espérance de pouvoir développer une collaboration, l'espérance de pouvoir apporter un bien mutuel, l'espérance qu'il y a un niveau de communion possible. Nous avons à demander cette grâce de l'espérance vis-à-vis de celui à qui nous allons nous adresser. Ce n'est pas forcément instinctif, c'est vraiment une grâce à demander. On voit ensuite dans l'Évangile qu'il y a un développement de la compréhension de cette collaboration possible. C'est elle qui demande à son tour de l'aide. Seigneur, donne-moi de cette eau. Ça prend un peu de temps pour cela. Voyez. Jésus ne se précipite pas sur l'énonciation du problème matrimonial. Et cela nous demande parfois de nous retenir. Et ce n'est pas une manipulation. Le Christ s'intéresse vraiment à la personne de la femme. Il n'est pas venu asséner une vérité comme on assène un coup de gourdin. C'est une question que je peux me poser quand je m'adresse à l'autre. Est-ce que je porte aussi ce désir du soin de la personne, ou bien j'ai juste le désir de jeter au visage une sentence de condamnation? Ce n'est que lorsque ce climat s'est développé, ce climat d'espérance, de collaboration mutuelle, que Jésus va approcher le sujet. Va chercher ton mari et reviens. Et là encore, ce n'est pas une sentence, mais une phrase qui va amener cette femme elle-même à une parole de discernement. Elle va faire un discernement. Je n'ai pas de mari, même si l'énonciation de ce discernement n'est pas encore complet. Et Jésus va l'aider, parce qu'elle a commencé ce processus, Jésus va l'aider à accoucher jusqu'au bout ce discernement. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Jésus n'a pas forcé le processus. Il a créé les conditions pour qu'il se produise, et la femme l'a déclenché. Et Jésus l'accompagne et lui permet d'aller jusqu'au bout. On peut vraiment parler d'accouchement. Après ce quatrième point de l'accouchement, on peut noter ce cinquième point, c'est que Jésus quand il fait émerger la vérité, ne la minimise pas. Il ne va pas dire que c'est pas grave. Il ne va pas dire que ce n'était pas de sa faute, qu'elle n'avait aucune responsabilité. Et cette lumière peut être reçue dans toutes ses dimensions, justement, parce qu'il n'est pas apparu comme une menace. On a souvent peur de la menace parce que on réagit et on raisonne de la façon suivante, pas vu, pas pris, pris, pendu. Et donc on dissimule, on se cache à la manière d'Adam et Ève dans le jardin de la Genèse quand ils entendent les pas de Dieu. Et le comportement du Christ rappelle ce qui se passait dans le comportement de Dieu dans au Genèse 3, au chapitre de la chute. Il prend l'initiative d'aller à la recherche de l'homme. Où es-tu, Adam ? Aurais-tu mangé du fruit dont je t'avais interdit de manger ? Qu'as-tu fait là ? Dieu avait offert une aide au discernement qui aurait pu aboutir à la conversion. Il y avait de la place pour cela. Alors on peut remarquer donc que Jésus ne fait pas bouger cette femme par la coercition. C'est facile et rapide de menacer quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose. On va l'obliger à faire quelque chose, en fait, mécaniquement. Je lui tords le bras pour qu'il fasse ou pour qu'il dise. Mais cela passe par la contrainte, l'écrasement de sa volonté. Et en fait, dans ce cas-là, la personne ne veut pas la justice, mais seulement échapper à la menace, échapper à la coercition, échapper à la douleur de ce bras qu'on lui tord. Notons qu'accompagner l'accouchement de la vérité signifie qu'on a confiance que la vérité est pour la vie de l'homme. On a rejeté donc l'idée que le mensonge pouvait être meilleur. On a compris donc que l'énonciation de la vérité devait prendre soin aussi de la vie de la personne. La vérité n'est pas seulement une information exacte que l'on assène. La façon dont on délivre cette information exacte fait partie de la nature de la vérité. Je la dévoile d'une façon qui te soit accessible, avec une confiance que tu puisses comprendre. Ce n'est pas seulement un message que je délivre et puis je m'en vais, débrouillez-vous. Je dis la chose pour que tu puisses la comprendre. Et j'ai confiance et j'ai l'espérance que tu en es capable. Il nous faut nous rendre compte que lorsque nous pensons qu'en face de nous, la personne est devenue incapable d'entendre la vérité, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, quelle que soit la façon dont on s'y prend, cela signifie qu'on la considère en fait déjà en enfer. Oui, c'est vrai, en enfer il n'y a pas de conversion, et ceux qui y sont n'ont pas le désir et n'auront jamais le désir de se convertir. Mais justement, sur cette terre, il est encore temps de changer notre cœur. Il est encore possible que le cœur de l'autre change. Peut-être faut-il un miracle, oui, mais ce miracle est encore possible. Eh bien, au terme de notre enseignement, puisse la façon dont agit Jésus avec la Samaritaine éclairer, inspirer notre façon d'agir avec ce qui nous entoure quand nous sommes appelés à donner une correction fraternelle. Qu'elle soit une lumière de vérité et une lumière de vie donnée pour la vie de l'autre. Que nous sachions apporter cette lumière en voyant l'autre, en faisant de l'autre un collaborateur où un apport mutuel, une aide mutuelle est espérée, désirée. Que nous puissions aider à cet accouchement dans l'exactitude. Que nous puissions énoncer cette vérité en vue de la vie de l'homme. Je vous souhaite de bons échanges.